Je m'appelle Lara Mahy, je suis maîtresse de conférences en sociologie à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne et je suis chercheuse rattachée au Centre Max Weber, qui est un laboratoire de sociologie généraliste. Pour vous présenter en quelques mots mon parcours, après l'obtention de mon baccalauréat il y a 15 ans, j'ai débuté des études de sociologie à l'Université de Grenoble, avant de rejoindre l'Université Paris-Nanterre, où j'ai obtenu ma licence, puis réalisé un master et un doctorat de sociologie. Ma thèse, menée au laboratoire Sophia Paul à Nanterre, a porté sur la façon dont le pouvoir médical se déploie dans et par des institutions qui ne se donnent pas pour première mission de soigner, à travers le cas de la justice pénale et de la prison. J'en développerai les principaux résultats tout à l'heure. Et l'année suivant donc l'obtention de ma thèse, j'ai été recrutée comme maîtresse de conférence, fonction que j'occupe toujours actuellement. Entre les deux, entre cette soutenance de thèse et mon recrutement, j'ai travaillé pendant quelques mois à l'INSERM dans le cadre d'un programme de recherche coordonné par Marc Bessin. Ce programme visait à comprendre dans quelle mesure l'entrée dans la parentalité pouvait produire chez des hommes une reconfiguration de certaines normes incorporées en lien à la santé et associées à la masculinité, par exemple le rapport au risque, ou la façon de se projeter ou non dans l'avenir. Mes travaux s'articulent finalement autour de plusieurs domaines de la sociologie. Je développe une sociologie de la socialisation, c'est-à-dire que je m'intéresse à la façon dont sont formés et se transforment les individus, cela au prisme tout particulièrement de questions de santé, ce qui m'amène à développer également une sociologie de la santé et à questionner des rapports de genre et des rapports de classe sociale. De par mes terrains de recherche, mes travaux s'inscrivent également dans une sociologie de la prison, dans une sociologie de la justice pénale. Le questionnement de départ de ma thèse trouve son origine dans ma prise de connaissance d'une littérature scientifique qui porte sur les conditions de santé de la population carcérale et son accès à des soins médicaux en prison. Cette littérature, elle est développée par des épidémiologistes, par des démographes, par des professionnels de santé, dont certains qui exercent en prison. Et dans leurs publications, tous ces professionnels font le même constat. Ils soulignent que les détenus sont globalement en mauvaise santé. Données quantifiées à l'appui, ils soutiennent plus exactement que certaines affections sont nettement plus présentes parmi la population carcérale qu'en population générale. C'est le cas des troubles psychiatriques, des conduites addictives ou encore des maladies infectieuses, notamment l'hépatite B, le virus de l'hépatite C et le VIH. Ces trois types d'affections, les troubles psychiatriques, les conduites addictives et les maladies infectieuses, sont aussi celles sur lesquelles porte la quasi-totalité de leurs études de prévalence. J'ai identifié dans ce contexte un manque dans les connaissances sociologiques dont nous disposions sur l'articulation entre les questions de santé et les questions de pénalité. En effet, dès lors qu'il est question de santé et de pénalité, la santé mentale monopolise les débats portant sur ces institutions. Cela de telle sorte que de nombreuses études ont été menées sur l'articulation entre les troubles psychiatriques et la pénalité. Ces études, elles ont par exemple mis en évidence des effets de balancier entre les flux de ces deux institutions, que ce sont l'hôpital psychiatrique et la prison. Ces études, elles ont également montré comment est-ce que des individus pouvaient être identifiés comme délinquants ou comme malades et orientés vers des filières différentes, psychiatriques, l'hôpital ou la prison. Ou encore, ils ont montré comment est-ce que la discipline psy, elle se diffusait en prison. Il m'a semblé qu'on savait en revanche peu de choses sur la façon dont les institutions judiciaires et carcérales se saisissent et traitent les questions de santé somatique. Ces analyses, elles sont de plus peu ou pas transposables parce que les institutions judiciaires et carcérales distinguent et traitent très différemment les questions psychiatriques et les questions somatiques. Par exemple, le code de procédure pénale prévoit que quelqu'un peut être jugé irresponsable et de ce fait épargné d'une peine de prison. Mais les textes ne prévoient pas, par exemple, de juger différemment quelqu'un parce qu'il a un cancer, une hépatite C, etc. Autre parallèle qui n'existe pas, lorsqu'une personne entre en prison, lorsqu'une personne est détenue et fait son entrée en prison, elle est systématiquement, et c'est obligatoire, examinée sur le plan de son état de santé général par un médecin généraliste. Mais en revanche, un entrant en prison, un détenu, n'est pas tenu, obligé de s'entretenir systématiquement avec un psychologue à son entrée en prison. Pour toutes ces raisons, j'ai fait le choix dans mon travail de me centrer uniquement sur les questions de santé somatique et de laisser de côté les questions relatives à la santé mentale. La question de départ de ma recherche était alors la suivante: à quelle peine sont condamnés les malades? Et à travers cette question, je me demandais par exemple si on sait, par les recherches qui sont réalisées sur le sentencing, c'est-à-dire les recherches sur la détermination de la peine, si on sait par ces recherches que quelqu'un qui a un emploi a moins de risques d'être condamné à une peine de prison ferme directement mise à exécution que quelqu'un qui n'a pas de travail. De la même façon, quelqu'un qui a un logement est relativement protégé de la prison comparativement à quelqu'un qui est sans domicile. Eh bien, qu'en est-il, mettons, si un prévenu a une maladie telle qu'un cancer, comparativement à une personne qui est en bonne santé? À quelle peine ces deux personnes seront-elles condamnées? Autre question, si maintenant on est toujours avec ces deux prévenus, mais il y en a un qui a une hépatite C et l'autre qui est en bonne santé. Bon, hépatite C, donc maladie stigmatisée, puisqu'associée aux usages de drogue dans ses représentations. Usage de drogue également répréhensible sur le plan pénal. Bon, dans quelle mesure cette information va ou non peser sur la détermination de sa sentence? Et puis maintenant, si on se dit que ces deux prévenus sont condamnés à la même peine, disons 6 ans, qu'est-ce que ça signifie 6 ans de prison? Est-ce que 6 ans de prison, c'est la même peine quand pour diverses raisons on pense qu'on mourra assez jeune ou quand on pense qu'on a la vie devant soi? J'ai donc débuté ma recherche en cherchant à comprendre à quelle peine sont condamnés les malades. Et cette peine était entendue dans une double acception, à la fois comme une sanction déterminée par l'institution judiciaire, c'est-à-dire une modalité de sanction, un quantum de peine, et également une peine dans un sens subjectif. Il s'agissait de comprendre d'une part pourquoi il y a tant de malades en prison, et d'autre part de comprendre comment s'expérimentent ces deux épreuves que sont la peine d'enfermement carcéral et la maladie quand elles sont expérimentées simultanément. Afin de comprendre pourquoi il y a tant de malades en prison, il m'est apparu nécessaire d'étudier ce qui se passe en amont de la prison, c'est-à-dire des tripénaux. J'ai donc commencé mon enquête en réalisant des observations quasi quotidiennes pendant 1 an au tribunal de grande instance de Paris. J'ai observé plusieurs centaines de procès pénaux. Après cette année d'observation, j'ai poursuivi mon travail ethnographique et je me suis rendue dans 3 établissements pénitentiaires qui sont situés dans 3 régions distinctes de France et qui sont des établissements de taille, d'époque différents. Au total, j'ai passé 7 mois dans ces prisons. J'ai principalement conduit mes observations dans les services médicaux de ces prisons. J'ai observé des consultations médicales, j'ai observé le déroulement des soins qui sont délivrés par les infirmières. J'ai observé les réunions d'équipe, j'ai observé comment sont distribués les médicaments tous les jours directement aux cellules des détenus, etc. J'ai également observé dans ces prisons d'autres scènes sociales, par exemple le travail des surveillants pénitentiaires ou encore les réunions de la direction de ces établissements. Parallèlement à ces observations, j'ai réalisé des entretiens avec des personnes détenues prises en charge par les services médicaux de ces prisons. Ils sont 74 à avoir pris part à un entretien socio-ethnographique de type récit de vie, donc qui portait sur leur trajectoire de vie. Certains des matériaux de ma thèse ont ensuite été appréhendés de façon quantitative, qu'il s'agisse de ces entretiens que j'ai réalisés, des observations que j'ai menées ou encore de certains documents que j'ai pu récupérer dans ces 3 prisons. Pour vous donner un exemple, j'ai construit une base de données quantitative à partir des observations que j'avais réalisées au tribunal de grande instance de Paris. J'ai codifié mes notes de terrain pour les transformer en variables comportant des modalités de réponse dans l'objectif de produire des statistiques sur les déterminations de la peine, et plus exactement sur les effets de santé dans la détermination des jugements. Mon enquête s'est achevée par la constitution et l'analyse d'un corpus de publications biomédicales portant sur les conditions de santé de la population carcérale. En fait, pendant que j'effectuais mes propres observations, mon enquête dans ces 3 prisons, il y avait d'autres enquêtes qui étaient réalisées en parallèle, mais cette fois-ci par des médecins. Il m'a semblé donc nécessaire, après avoir observé le déroulement de ces enquêtes et après avoir observé finalement comment sont produites les données de prévalence sur la population carcérale, ben, il m'est paru nécessaire de revenir à cette publication biomédicale et de la constituer elle-même en objet d'étude. En prenant une distance avec les approches biomédicales et en appréhendant la santé non pas comme un état, mais comme une norme, je propose finalement un autre regard sociologique sur cette question, pourquoi y a-t-il tant de malades en prison ? Je montre plus exactement dans mes travaux comment les institutions judiciaires et carcérales produisent ces malades à partir de l'analyse processuelle de trois dispositifs, le procès, le circuit arrivant en maison d'arrêt, qui est le moment où les détenus entrent en prison, et la peine d'enfermement. Ce processus, d'un dispositif à un autre, à chaque nouvelle étape, produit des malades. Et au fur et à mesure qu'on avance dans ce processus, on peut observer comment l'étau se resserre à chaque fois sur les prévenus, puis sur les arrivants, puis sur les détenus, qui sont parmi les plus pauvres et les plus désaffiliés. Il s'agit là de l'un des principaux résultats de cette recherche. Je montre d'abord que les prévenus qui sont les moins dotés socialement sont incités par les magistrats à se présenter comme malades lors de leur procès. Ils sont systématiquement questionnés sur leurs éventuels problèmes de santé par les magistrats. Dès lors que les prévenus reprennent à leur compte cette présentation de soi qui leur est suggérée, ils sont alors aussitôt questionnés sur leur engagement dans des soins. Il leur est demandé, est-ce que, pour le problème de santé que vous mentionnez, est-ce que vous vous soignez ? Cette information sur leur engagement dans des soins a des effets sur la détermination de la peine. L'analyse statistique des jugements rendus par la chambre correctionnelle que j'ai étudiée m'a permis d'observer que les prévenus qui se disent malades et qui répondent ne pas se soigner ont 5 fois plus de risques d'être condamnés à une peine de prison ferme directement mise à exécution comparativement aux prévenus qui se présentent en bonne santé. À l'opposé, les prévenus qui se présentent comme malades et qui répondent aux magistrats à se soigner, qui sont engagés dans des soins, sont relativement, quant à eux, protégés d'une peine d'emprisonnement ferme. Les prévenus qui se présentent comme malades et qui ne se soignent pas ne répondent pas, d'une certaine façon, à la bonne norme selon laquelle, quand on est malade, eh bien, on se soigne. Et à l'issue de leur procès, ils ont de fortes chances d'être directement conduits en prison. Ils deviennent alors des arrivants. À l'entrée en prison, tous les arrivants sont ensuite systématiquement, parce que c'est obligatoire, ils sont systématiquement examinés sur le plan de leur état de santé général par un médecin. Néanmoins, les arrivants, qui sont parmi les plus pauvres et les plus désaffiliés, font l'objet, dans le cadre de cette consultation médicale, ils font l'objet d'un repérage spécifique et minutieux par les professionnels de santé. En effet, si pour les professionnels de santé, la prison ne doit en aucun cas être perçue comme un lieu de soins, elle n'en constitue pas moins pour autant une opportunité pour repérer, pour éduquer, pour soigner et pour réinsérer des personnes qui se tiennent habituellement plutôt à distance de la juridiction médicale. Ainsi, face à ces arrivants qui sont parmi les plus pauvres et les plus désaffiliés, les médecins, dans le cadre de cette consultation, vont multiplier les orientations. Ils vont adresser ces patients détenus au dentiste, à la psychologue, aux infirmiers. Ils vont leur prescrire des tests de dépistage de maladies infectieuses. Ces arrivants, qui sont donc parmi les plus pauvres et les plus désaffiliés, sont activement recrutés dans les files actives des services médicaux des prisons. Ils deviennent simultanément des détenus et des patients. Leur quotidien va être médicalisé dès le moment de leur incarcération. En fait, si on regarde l'espace social du travail médical en prison, cet espace social, il se structure par une double opposition. On va avoir d'un côté des patients qui sont les plus dotés socialement et qui sont des patients qui généralement se soignaient avant leur incarcération. Et de l'autre côté, on va avoir ces patients détenus qui sont parmi les plus pauvres et les plus désaffiliés et qui ont fait l'objet d'une médicalisation à leur entrée en prison. Donc ces patients détenus, qui sont parmi les plus pauvres et les plus désaffiliés, ils vont faire l'objet d'une socialisation à la santé qui est intense durant le temps de leur incarcération. Leur prise en charge, on peut la qualifier de totale. Totale d'abord en allusion à une expression utilisée par les soignants de prise en charge globale, c'est-à-dire que les actions qui sont entreprises par les professionnels de santé, elles vont viser à agir à la fois sur leurs conditions biologiques, mais aussi sur leur insertion sociale ou encore sur leur psychisme. Cette prise en charge, on peut la qualifier également de totale, cette fois-ci en allusion au concept d'institution totale développé par Erving Goffman, puisque cette prise en charge, elle va prendre appui sur un ensemble de règles, de normes, de contraintes d'une institution totale, et qu'il va en découler une surveillance médicale, cette fois une surveillance médicale, qui va s'exercer sur toutes les sphères de l'existence de ces personnes. Cette médicalisation des plus pauvres et des affiliés, je l'appréhende en termes d'expérience socialisatrice. C'est-à-dire que je me demande quelles modifications elle va imprimer chez ces individus. Cette perspective, elle permet d'observer, par exemple, qu'un diagnostic qui a pu être reçu avant l'incarcération et alors perçu comme faux, va être perçu par ces patients détenus comme vrai dès lors qu'ils sont en prison. C'est-à-dire, par exemple, parmi mes enquêtés, il y en a qui avaient appris qu'ils avaient une hépatite C, mettons 10 ans plus tôt, mais qui ne considéraient pas ça comme une information en soi. Mais dès lors qu'ils sont en prison, ils vont se percevoir et se présenter comme malades, et cette hépatite C, elle va prendre de l'importance à la fois dans la façon dont ils se perçoivent, dont ils se racontent, mais aussi dans la façon dont ils se racontent leur histoire au sens plus global. Mais, et il s'agit d'un point important, cette socialisation à la santé, c'est d'abord une socialisation carcérale à la santé. Les normes médicales et les normes carcérales vont s'entremêler. Les soins vont par exemple être intégrés au système de privilèges de cette institution. Se soigner, c'est-à-dire aller à l'infirmerie, rencontrer un médecin, c'est d'abord perçu comme une activité, comme une autre, une activité au même titre qu'aller à la promenade, aller à la cabine téléphonique, etc. De la même façon, prendre un traitement médical, la perspective de prendre un traitement va être appréhendée en fonction de la durée de la peine ou de l'obtention ou non d'une libération conditionnelle. Il y a donc une imbrication entre le soin et la peine. Finalement, plus cette socialisation carcérale à la santé elle va être intense, et moins les dispositions de santé de ces patients détenus vont être reconnues par les professionnels de santé. Les professionnels de santé vont juger les façons de penser, de croire, d'agir, de réagir de ces patients détenus comme étant non médicales. Ces analyses, elles permettent finalement, je pense, d'apporter un éclairage à une question perpétuelle que se posent les professionnels de santé et qui est « mais pourquoi est-ce que nos patients, quand ils sortent de prison, ils arrêtent de se soigner ?» Finalement, cette recherche qu'elle montre, c'est que ces patients détenus sont socialisés à une santé qui n'existe pas en dehors des murs des prisons. Je réalise actuellement une recherche sur la crise sanitaire du Covid-19 en prison à la demande de la direction de l'administration pénitentiaire et je travaille avec deux collègues, Léo Farsi-Calon et Vincent Rubio. Cette recherche, elle est réalisée en collaboration avec un médecin infectiologue qui exerce en milieu carcéral et qui coordonne, ce médecin, une enquête de prévalence dans l'ensemble des établissements pénitentiaires d'Île-de-France sur le Covid-19. Donc c'est une enquête biomédicale qui vise à évaluer la proportion de détenus qui a rencontré le Covid-19. De la même façon qu'il y a des recherches qui sont menées en population générale. Donc c'est l'unique recherche épidémiologique sur le milieu carcéral. Nous sociologues, on s'est associés à ce médecin infectiologue et on observe le déroulement de cette étude biomédicale et on essaie de comprendre pourquoi les détenus qui ont été tirés au sort pour se voir proposer un test sérologique du Covid, pourquoi les détenus acceptent ou refusent de participer à cette étude. Plus globalement, au-delà de leur acceptation à la participation à ce programme de recherche, on essaie de comprendre comment toutes les mesures prophylactiques qui ont été mises en place, elles ont été acceptées ou non par les détenus, comment elles sont vécues en fait, et comment plus globalement les détenus ont traversé cette crise sanitaire du Covid-19, qui a eu pour conséquence par exemple la fermeture des parloirs à certains moments, qui a eu pour conséquence l'arrêt des ateliers où les détenus travaillent, sans pour autant que cet arrêt soit compensé, comme ça a pu être le cas en population générale, par des mesures exceptionnelles économiques pour soulager les ménages. Donc comment les détenus sont vus privés de revenus, privée d'école également, privée de parloir. On s'intéresse aux hybridations également, puisque des surveillants pénitentiaires ont eu à prendre en charge d'une certaine façon des questions médicales. Moi, j'ai pu observer dans un établissement des surveillants relever la température corporelle de détenus, par exemple, cellule après cellule. Et comment est-ce que de l'autre côté, les professionnels de santé qui exercent en prison se sont vus devoir appliquer des mesures qui sont habituellement celles qui sont décidées par l'administration pénitentiaire, mesures privatives de liberté. Par exemple, décider qu'un patient détenu sera isolé 14 jours dans sa cellule, etc. Ce qui est en milieu pénitentiaire potentiellement une sanction, en fait, puisque ça se rapproche de ce qu'on peut observer dans les quartiers disciplinaires où les détenus qui ont fait des fautes dans l'établissement, par exemple rentrer de la drogue ou se battre avec quelqu'un, sont sanctionnés en étant de la même façon isolés pendant un certain nombre de jours. Alors finalement, on peut faire beaucoup de parallèles entre ce qu'on observe en prison et ce qu'on peut observer en population générale face à la crise sanitaire. Donc les détenus ont été privés de voir leurs proches de la même manière que les personnes résidant en France ont été privées de voir leurs proches, et ainsi de suite. Donc il y a un certain nombre de parallèles qui peuvent être effectués. En revanche, il y a des questions plus spécifiques qui se jouent en milieu carcéral. La peine d'emprisonnement ferme, elle est pensée par l'institution comme une peine au cours de laquelle doivent être menées un certain nombre d'actions de réinsertion par les détenus. Les détenus sont tenus de travailler, ils sont tenus d'étudier, de se soigner, etc. Et tout cet engagement dans leur peine va à la fois justifier la peine, mais aussi justifier de mesures de libération anticipées par des aménagements de peine. Donc la crise de Covid, elle pose aussi tout un certain nombre de questions sur l'impossibilité dans laquelle se sont trouvés les détenus de s'engager, de faire quelque chose de leur peine.